Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Alia.
Nous sommes des élèves de 4e de l'UP à Montrevel-en-Bresse.
Nous avons travaillé sur le sujet du harcèlement avec notre classe pour préparer cette émission.
En effet, ce sujet revient de plus en plus dans les médias.
Et aujourd'hui, on sait qu'au moins un élève sur 10 est concerné.
Tout de suite, nous passons la parole aux premiers chroniqueurs, Edgy et Alexis.
Bonjour, je m'appelle Edgy et avec Alexis, nous allons vous présenter du harcèlement physique.
Bonjour, le harcèlement physique, c'est le fait de toucher quelqu'un sans demander sa permission.
En effet, un attouchement est déjà une agression. Le harcèlement commence quand ces gestes sont répétés.
Pour éviter d'être accusé de harcèlement physique, vérifiez toujours que la personne avec vous est consentante.
Le harcèlement physique concerne aussi toutes les formes de violence, comme les coups, les gifles.
Et on sait, grâce aux informations trouvées sur le site education.gouv.fr, que les filles sont plus victimes de harcèlement physique que les garçons.
Globalement, 3 élèves sur 10 sont victimes de violences au collège et au lycée.
Et 7% des élèves signalent qu'ils se sont fait taper au moins 5 fois.
D'après un sondage issu du site enfantsbleu.org, 14% des Français déclarent avoir été victimes de maltraitance au cours de leur enfance.
Oui, qu'il s'agisse de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique.
Plus d'un Français sur 10, soit près de 7 millions de jeunes, sont donc victimes de maltraitance.
Le harcèlement est défini par un rapport de domination, la répétition et l'isolement d'une victime plus petite ou plus faible. On peut facilement faire le lien entre les violences subies dans la famille et le harcèlement.
Parfois, dans les familles, on trouve toutes les manifestations du harcèlement, même si elle n'a pas lieu entre élèves, mais entre adultes et enfants.
Oui, l'enfant est forcément plus faible que ses parents, et il peut donc difficilement se défendre.
Que le harcèlement physique ait lieu à l'école ou en famille, ses conséquences sont graves.
Le site education.gouv.fr cite par exemple la perte d'estime de soi, la baisse des résultats scolaires, voire le décrochage, un profond mal-être, des troubles du comportement alimentaire, parfois des conduites suicidaires.
Mais alors, comment lutter contre le harcèlement physique ?
Selon eduscol.education, il faudrait éduquer, former une communauté protectrice de professionnels et de personnel pour les élèves, intervenir efficacement sur les situations de harcèlement, associer les parents et les partenaires et communiquer sur le programme. Tout cela permet de prévenir les phénomènes de harcèlement.
On rappelle l'existence de numéros gratuits accessibles 7 jours sur 7 entre 9h et 23h pour les victimes ou témoins de harcèlement. Notez-le, c'est le 3018.
Merci à eux.
Maintenant, nous allons vous parler du harcèlement verbal sur les filles.
Spécifiquement sur les femmes.
Et oui, car le Haut Conseil à l'égalité dénonce un taux de 17% d'agression verbale sur les femmes en France.
Que ce soit dans la rue ou dans les transports en commun.
Et même chez les jeunes, un élève sur 10 sera victime de harcèlement, toujours confondu.
Mais comment reconnaît-on le harcèlement verbal ?
Il est défini par des paroles que l'on dit à quelqu'un et qui peuvent lui faire du mal moralement, le blesser et il doit être répété.
Donc il s'agit d'une atteinte personnelle, comme par exemple les critiques en privé ou en public, la moquerie, les insultes particulièrement blessantes, les reproches au sujet de personnes aimées.
Où a lieu principalement le harcèlement verbal ?
Il n'y a pas de lieu privilégié. On peut y confronté dans la rue, en classe, au travail et même dans sa famille.
D'ailleurs, selon l'INSEE, 12,7% des femmes contre 10,5% des hommes adultes déclarent avoir subi des atteintes psychologiques ou des agressions verbales de la part de leur conjoint ou ex-conjoint dans les 2 dernières années.
Ça veut dire qu'ils ont été victimes de comportements dévalorisants, de manifestations, de jalousie, d'insultes ou été confrontés à des menaces ou des actes visant des contrôles de manière répétée.
D'ailleurs, les chiffres montrent que les femmes se sentent moins en sécurité que les hommes dans la rue ou chez elles.
Oui, l'INSEE relève que les femmes âgées de 14 ans ou plus sont 2 fois plus nombreuses que les hommes, 10% contre 5%, à se tenir en insécurité à leur domicile, dans leur quartier ou village, 14% contre 8%.
Encore plus grave, 17% d'entre elles déclarent renoncer à sortir seule de chez elle pour des raisons de sécurité contre seulement 4% des hommes.
Cette situation concerne plus fréquemment les moins de 30 ans et les 75 ans ou plus.
On note que 13% des femmes et 12% des hommes ont été victimes d'au moins une agression verbale de la part d'une ou plusieurs personnes et que, quel que soit leur sexe, les jeunes âgés de 18 ans, 29 ans déclarent 3 fois plus souvent ce type de violence que les personnes âgées de 60 à 75 ans.
Enfin, les agressions verbales envers les femmes sont plus souvent indiscrètes, proférées par un téléphone, courrier ou via les réseaux sociaux.
Pour terminer, on rappelle que toutes les violences verbales psychologiques sont interdites et punies par la loi.
En effet, le harcèlement peut être puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Le harcèlement moral sur un enfant de moins de 15 ans est une circonstance aggravante et la peine prévue pour le code pénal peut passer à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
À présent, nous laissons la parole à Lina et Manuela qui ont interrogé les habitants de Montrevel sur le marché au sujet du cyberharcèlement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous sommes penchés sur le thème du cyberharcèlement car ce sujet touche 1 million d'élèves âgés de 6 à 18 ans chaque année.
Mais comment reconnaître le cyberharcèlement, Manuela ?
Justement, nous avons interrogé des gens de Montrevel qui nous donnent leur avis.
On les écoute.
Connaissez-vous le cyberharcèlement ?
J'ai un ordinateur, mais disons que puis ça existe quoi.
Et oui. Pour vous, comment on peut l'éviter ?
On ferme l'ordinateur.
Pour les jeunes, oui, il faut faire très attention. Pas mettre des photos, pas mettre des trucs comme ça. Le moins possible, le moins possible.
Est-ce que je connais le cyberharcèlement ? Oui, avec ce qu'ils en parlent à la télévision.
Pour vous, comment on pourrait l'éviter ?
Déjà, je pense que si les parents éduquaient, pour certains, un peu mieux leurs enfants et étaient un peu plus stricts pour certaines choses, ça n'existerait pas. Et peut-être mettre en place dans certaines villes plus de sport. S'ils jouaient au foot et s'ils faisaient du sport, ils seraient peut-être moins tentés par aller embêter les autres.
Est-ce que vous connaissez le cyberharcèlement ? Pour vous, comment on pourrait l'éviter ?
Déjà, vous les jeunes, faites attention aux réseaux sociaux, à qui vous ajoutez, tout ça. Et puis voilà, en fait, ça passe d'abord par vous, avant de passer par les autres.
Alors là, je crois que c'est très compliqué à l'heure actuelle. Simplement déjà, pour moi, les réseaux sociaux, faudrait peut-être que ça s'arrête d'urgence. Et pour moi aussi, je pense que les parents devraient être un peu plus vigilants.
Et j'ai du mal à comprendre. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on essaye à nos jeunes de la famille ou les jeunes qui sont des proches, de leur faire comprendre que c'est juste pas possible, qu'on ne peut pas vivre comme ça et c'est pas normal.
Ok, mais ce n'est que leur avis. Est-ce qu'on a une définition concrète ?
Le cyberharcèlement est défini par des menaces ou des insultes répétées envoyées par message de type SMS, mail ou sur les réseaux sociaux.
80% des jeunes ont déclaré être cyberharcelés sur Facebook, 16% sur Messenger, 15% sur Twitter, 8% sur Snap et 6% sur Insta, dont 54% dans les collèges, 23% dans les écoles primaires et 13% dans les lycées.
Les sanctions envers le cyberharceleur varient en fonction de l'âge de leur victime.
Les conséquences sont plus graves si la victime a moins de 15 ans.
Si l'auteur du cyberharcèlement est majeur, il encourt une peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Ou 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si la victime a moins de 15 ans.
Si l'auteur des faits est mineur, il y a une différence en fonction de son âge, s'il a plus ou moins de 13 ans.
Mais sa sanction dépend aussi de l'âge de la victime. Lorsque la victime a plus de 15 ans, la peine encourue va de 1 an à 18 mois de prison et jusqu'à 7 500 euros d'amende.
Mais si l'auteur a moins de 13 ans, des mesures particulières sont appliquées au cas par cas.
En tout cas, une victime de cyberharcèlement a 6 ans pour porter plainte après les faits.
Merci à elle, nous recevons à présent Romane et Louis qui nous parlent de harcèlement moral.
Bonjour, je suis Romane.
Et je suis Louis.
Nous allons vous parler du harcèlement moral au sein des collèges.
Alors Romane, qu'est-ce que le harcèlement moral ?
Le harcèlement est défini par 3 critères, la volonté de nuire, la répétition et le pouvoir exercé par le harceleur.
Et quelle est la particularité du harcèlement moral ?
C'est un harcèlement qui blesse par des mots ou des comportements humiliants.
D'après l'UNICEF, les garçons ont plus de risques de subir du harcèlement physique et les filles du harcèlement moral, autrement dit psychologique.
Et il ne faut pas croire que le harcèlement psychologique est moins grave que le harcèlement physique. Les coups ne sont pas visibles, mais leurs conséquences sont graves.
Oui, les symptômes peuvent être pleurs, déprime, abattement, perte d'intérêt, d'appétit, isolement, perte de confiance, fatigue, troubles du sommeil.
Il faut donc être attentif aux changements de comportement de vos amis et de votre famille.
L'absentéisme est aussi un signe. La victime peut avoir peur de revenir en cours.
D'après le ministère de l'Éducation nationale, le harcèlement scolaire peut entraîner une baisse de la concentration, des troubles de la mémoire, des difficultés de raisonnement. Ça met donc en péril les résultats scolaires de la victime.
D'après France Info, 5 à 6% des élèves français seraient victimes de harcèlement scolaire en France chaque année.
Ces chiffres sont contestés par les associations de défense des victimes qui évoquent, elles, 10% d'élèves harcelés.
Apparemment, les harceleurs ont beaucoup plus en commun avec leurs victimes qu'on ne peut le penser.
Ils sont en position de supériorité, de force, mais souffrent eux aussi vulnérables. Harceler, c'est un signe de mal-être.
Donc, pour tous, il est important de sensibiliser aux premiers signes pour pouvoir agir vite et que les conséquences soient réduites.
Merci aux chroniqueurs pour ces informations.
Et tout de suite, la parole revient à Tiffaine et Lucie.
Elles ont pu interviewer l'une des CPE du collège pour parler du dispositif Sentinelle et Référent.
Bonjour Madame Waflard, bonjour Lou, merci d'avoir accepté notre invitation.
Lou, on sait que tu es élève Sentinelle au collège de Lup de Morvel. Quelle formation as-tu suivie pour devenir Sentinelle? En quoi consistait-elle?
J'ai suivi une formation de 4 jours. On a parlé de situations, on a appris comment gérer des situations. On avait fait des exemples avec certaines personnes, on les mettait en tant que victimes et d'autres harceleurs pour apprendre ce qu'on pouvait dire pour protéger ou pour faire face. Du coup, aussi, il y avait les sentinelles et référents. Et moi, j'étais en tant que sentinelle avec un adulte, donc un référent, et on devait poser des questions sur qu'est-ce qui était leur problème à la victime. Au début, c'était un peu compliqué, mais après, ça allait.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être élève sentinelle?
C'est que j'aime pas voir les personnes se faire harceler. Enfin, ça me fait de la peine. Et au lieu de rien faire, je voulais faire quelque chose pour les aider.
Vous, les sentinelles, comment repérez-vous les situations qui relèvent du harcèlement? Que faites-vous lorsque vous êtes sûr qu'il s'agit de harcèlement?
Déjà, il faut être sûr que ça se produit très souvent, régulièrement. Au début, il faut rester sur nos gardes et après, on peut passer en action. Déjà, on peut en parler avec des référents, si on veut, ou d'autres sentinelles. Et après, on peut aller intervenir en groupe ou tout seul, ça dépend, pour aller voir les victimes.
Quel conseil donnez-vous à la victime et aux témoins?
C'est pas facile, mais faut essayer d'en parler au moins à une personne pour qu'elle nous aide. Et comme ça, on s'enferme pas, enfin, de pas rester tout seul.
Avez-vous le droit de vous occuper du harceleur?
Normalement, pas trop. On essaye plus d'intervenir sur... sur les victimes et sur les autres, ceux qui observent mais qui font rien. Le harceleur, on essaye de l'ignorer. Comme ça le mettra dans une situation où il pourra, où il se remet en question, où qu'il n'y a plus personne qui le suit pour harceler la personne.
Madame Waflard, vous êtes adulte référente au sein du collège de Lup. Comment êtes-vous en lien avec les sentinelles?
Je suis en lien avec les sentinelles quand ils viennent me solliciter, donc spontanément, s'ils font une démarche pour venir me parler d'une situation. Ou sinon, après, on a des temps où on se retrouve tout le collectif des sentinelles.
Comment êtes-vous devenue référente? Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a motivée?
Alors, je suis devenue référente parce qu'on m'a proposé de mettre en place ce dispositif sentinelle et référent. Et donc, j'ai trouvé que l'idée était intéressante de travailler aussi bien avec des élèves que des adultes sur cette question du harcèlement. Mon parcours, je suis conseillère principale d'éducation depuis très longtemps maintenant. Et on a vu cette question du harcèlement envahir de plus en plus le quotidien des élèves. Et il me semblait qu'il fallait absolument mettre quelque chose en place. C'était une possibilité qui était offerte ici au collège de Lup, et je trouvais que c'était intéressant d'essayer d'agir. Et il y a plein d'autres dispositifs qui existent, mais celui-là, il me paraît intéressant parce qu'il met en lien des adultes et des élèves.
Quelle est la première action mise en place pour aider une victime ?
C'est de rompre le silence. Parce qu'une victime, c'est quelqu'un qui est isolé. C'est ce qu'a cherché en fait à faire le harceleur. C'est que cette personne n'ait plus la force de se défendre et qu'elle ne croit plus suffisamment en elle. Elle a une image complètement dégradée, une perte de confiance en elle. Et du coup, une perte de confiance aussi envers tous ceux qui ont regardé, qui n'ont rien dit, se demandent pourquoi. Et pourquoi les adultes n'interviennent pas non plus. Donc la première chose, c'est de réussir à restaurer un peu de confiance en soi. Et le fait que des sentinelles interviennent, ça permet à la personne qui est victime de se dire je vis pas dans l'indifférence. En fait, il y a des gens qui sont témoins et qui n'acceptent pas ce qui est en train de se passer pour moi. Ce qui est important, c'est de ne pas faire à la place. En fait, il faut que de nouveau, cette personne qui est victime, elle redevienne acteur et elle arrive à réagir. C'est important qu'il y ait beaucoup d'adultes aussi qui soient formés, que ce soit des enseignants, des personnels de l'encadrement surveillant au niveau de la vie scolaire, des personnes qui travaillent aussi au niveau de la demi-pension, qui s'occupent de l'entretien, du secrétariat. On a pas mal de monde qui est formé au niveau des adultes, des personnes extérieures aussi au collège, pour que l'élève puisse trouver n'importe quel interlocuteur à qui se confier.
Y a-t-il eu beaucoup de victimes dans ce collège ?
On a tout le temps des situations à traiter. Ça ne s'arrête jamais. Après, je pense qu'en ayant un dispositif, ça permet que ça ne s'enquiste pas et on n'est pas sur des situations qui sont graves, dans le sens trop lourdes, pour pouvoir réussir à changer les choses. Mais, hélas, ça fait partie, on va dire, du quotidien qu'on a à gérer. D'élèves qui se retrouvent avec des moqueries, avec des choses qui arrivent sur les réseaux aussi, qui dépassent normalement le temps scolaire, mais qui se perpétuent quand même à l'extérieur et qui reviennent après dans le collège. Donc on en a, je veux dire que ça fait presque partie d'un quotidien à traiter.
Comment interagissez-vous avec un élève harceleur ?
C'est la responsabilité des adultes que de reposer le cadre en disant que le harcèlement, c'est interdit. C'est interdit par la loi, que ça fait souffrir. Et ça, c'est le rôle des adultes de redire ce cadre-là. Il faut savoir quand même que la plupart des élèves qui sont harceleurs ont eux-mêmes été victimes auparavant. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit traité. Parce qu'en fait, ils ne font que reproduire parce qu'ils ont peur que ça leur arrive de nouveau. Donc il faut aussi bien traiter leur propre souffrance, parce que souvent ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais parlé de ce qu'ils avaient vécu avant. Donc c'est souvent l'occasion pour eux, à un moment donné, de pouvoir parler de leur passé et des souffrances qu'ils ont eues. Et en même temps, leur rappeler que ce qu'ils font, c'est interdit. On n'est pas harceleur à vie, on n'est pas victime à vie, on n'est pas public passif à vie. Et c'est, on change, on peut passer de l'un à l'autre. Le harceleur est souvent un enfant qui a souffert aussi.
Parlez-vous des problèmes de la victime aux autres sentinelles et référents ?
Oui, en fait, c'est un échange qu'on a avec les sentinelles. C'est des élèves en qui on a confiance. Ils savent exactement ce qui peut arriver à un élève qui est victime. Et parfois, nous, on repère aussi en tant qu'adulte une situation où on se dit « Tiens, cet enfant, il est isolé ou il ne semble pas aller bien ». Il y a des professeurs qui peuvent nous dire dans la classe, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, il n'a pas l'air bien. Et donc on va solliciter les sentinelles en disant, ça serait bien que vous rapprochiez tel élève pour savoir ce qui se passe, est-ce que vous pouvez le rencontrer, est-ce que vous pouvez aller le voir. Donc ils reçoivent souvent pas mal de confidences directement des élèves.
Madame Moifflard, Lou, merci pour vos réponses.
Merci à elle et à notre CPE pour cette interview.
Hugo et Célestin sont nos derniers chroniqueurs.
Ils nous parlent des conséquences psychologiques du harcèlement.
Bonjour à tous, bonjour Célestin.
Bonjour Hugo, bonjour chers auditeurs, bonjour Hugo.
Alors, quelles sont les conséquences psychologiques du harcèlement ?
Les conséquences sur les victimes de harcèlement peuvent être terribles. Isolement, troubles scolaires, perte de l'estime de soi, profond mal-être, troubles du comportement, troubles de l'alimentation et dans les pires des cas, conduite suicidaire.
Si vos connaissances vous mènent à être victime de harcèlement,
qu'il soit sexuel, physique, moral, verbal ou de cyberharcèlement,
contactez la police ou la gendarmerie pour porter plainte.
Vous pouvez aussi appeler le 3018, ce numéro vert est disponible tous les jours entre 9h et 23h pour les victimes et les témoins de harcèlement.
Ce service existe aussi sous forme d'application à télécharger, 3018 Association I-Enfance.
Elle est accessible par chat ou Facebook Messenger.
D'après le site officiel, cette plateforme est capable d'intervenir rapidement pour faire supprimer des contenus dangereux sur les réseaux sociaux.
Merci à eux et à tous de nous avoir écoutés.
On vous rappelle que l'existence du numéro vert pour les victimes et témoins de harcèlement, le 3018.
Passez une agréable journée.